Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Univox sur le réseau Radio Campus France. Le 11 octobre dernier, le mouvement associatif appelait à une mobilisation générale dans toute la France. Le mot d'ordre était simple, ça ne tient plus. Les associations, pilier fondamental de l'édifice France, sont sur le point de s'écrouler dans l'indifférence presque générale à entendre les acteurs du secteur, alors que les budgets et subventions s'effritent. Une enquête réalisée par le mouvement associatif en octobre relate que 30% des associations qui emploient des salariés ont une trésorerie inférieure à 3 mois. 58% des associations employeuses déclarent que les financements publics ont baissé. Et le mouvement associatif ajoute qu'en 15 ans, la part des subventions octroyées aux associations a diminué de 41%. Les subventions se réduisent et laissent place à de plus en plus d'appels à projets pour tenter d'obtenir des financements pour leurs initiatives, à l'image des marchés publics pour les entreprises dans le cadre des appels d'offres. Le mouvement associatif porte trois revendications principales. Pas un euro de moins pour le monde associatif, un sursaut politique en faveur du monde associatif avec des engagements clairs et la mise en place de subventions sur le long terme dans le cadre de conventions pluriannuelles. Le but de cette mobilisation nationale était donc d'amener à une prise de conscience des pouvoirs publics, mais surtout de la population qui bénéficie souvent de l'action des associations sans même le savoir, jusqu'au moment où elles ne seront plus là pour exercer ces services qui sont souvent pris pour des acquis. À Orléans, c'était plus de 200 personnes qui s'étaient réunies sur la place du Martroi au moment de cette mobilisation nationale. Radio Campus Orléans était sur place et a laissé traîner son micro.
Univox.
Vers 16h, on vous lancera un son sonore pour que tout le monde s'allonge et simule la mort des associations. Donc ne partez pas d'ici là. Et à 16h30, on aura un petit goûter partagé voilà, pour les personnes qui restent avec les enfants. On a amené quelques gourmandises et puis peut-être que certains d'entre vous ont aussi apporté quelque chose. Donc on reste ensemble jusqu'à 17h. En attendant, je vais passer la parole parce qu'on a micro ouvert à Dominique Lorenzi-Brie pour l'URIORF Ce Centre et le collectif Alerte.
Merci d'être présent aujourd'hui et de nous écouter, car nous avons beaucoup de choses à dire. Je dis bien, nous avons beaucoup de choses à dire concernant nos associations, car il s'agit bien de notre bien commun, le plus précieux, qui traverse une crise financière sans précédent, qui les menace à court terme. 67 millions de Français, c'est-à-dire la totalité d'entre nous, sont concernés par les actions des associations. Que deviendrions-nous sans les associations qui accompagnent et soutiennent les personnes en situation de handicap, les enfants maltraités, les personnes âgées dépendantes à domicile, les personnes précaires qui n'ont pas de quoi se nourrir, de se loger, de se soigner, les étudiants isolés, les paysans qui sombrent, les femmes violentées, les personnes étrangères déracinées, les enfants qui perdent pied à l'école. Que serions-nous sans les associations sportives, culturelles, d'éducation populaire? Mesdames et messieurs, vous savez bien que si notre société tient encore à peu près debout aujourd'hui, c'est grâce au tissu associatif qui s'est patiemment installé depuis des dizaines d'années sur tous nos territoires et quartiers, y compris les plus en difficulté. Et vous savez bien que les 20 millions de bénévoles et les 1,8 million de salariés de nos associations sont des gardiens désintéressés et exigeants de l'égalité entre nous tous et toutes. Alors, en réduisant progressivement les financements des associations au point aujourd'hui de les mettre à terre, que cherchent donc nos pouvoirs publics? Une société encore plus rude, plus injuste, une société encore plus entravée, plus étriquée, plus excluante, plus désorientées et encore plus violentes, vont-ils se rendre compte que cette destruction insensée et programmée du tissu associatif va conduire à une explosion durable de notre vivre ensemble et de notre cohésion sociale. J'œuvre silencieusement aux côtés de tant d'autres anonymes depuis plus de 55 ans au sein d'associations du secteur social et médico-social. Je prends pour la première fois la parole devant vous sur cette place publique aux côtés de tout le mouvement associatif du Centre Val-de-Loire pour dire que le vaisseau amiral associatif, défendeur des valeurs humanistes les plus nobles, est en train de sombrer faute d'un financement suffisant et durable. Non, je ne veux pas être le témoin passif des conséquences de cet abandon qui va impacter toute notre société. Non, le financement des associations n'est pas soluble dans l'eau de la dette. Et je vous demande donc de nous aider à porter, à soutenir notre alarmant message. Merci.
Je sens un recul absolument considérable de la manière dont sont traitées les personnes vulnérables, les personnes qui ont besoin des associations.
Dominique Laurent-Zibri, vice-présidente de l'URIOPS Centre, l'Union régionale des organismes privés sanitaires sociaux.
Je suis atterrée par ce recul et je pense que le monde associatif doit se défendre ardemment pour que nous puissions sauvegarder la cohésion sociale, parce qu'il en va de la cohésion sociale. Tout le monde est concerné par les associations, tout le monde. Nous avons tous à voir avec le milieu associatif, sans parfois nous en rendre compte, mais en tout cas 67 millions de personnes, d'habitants dans notre pays, à avoir avec les associations. Donc il faut prendre grand soin des associations, non seulement la société civile, mais évidemment notre personnel politique, qui est bien en difficulté à l'heure actuelle. Il faut qu'ils sachent prioriser effectivement le sujet que nous défendons.
Vous parliez de changement de traitement depuis plusieurs décennies maintenant. Comment est-ce qu'il s'est manifesté, ce changement de traitement, à l'égard du monde associatif, vous qui avez justement cette expérience ?
Eh bien, écoutez, quand nous établissions des budgets et que nous avions une difficulté, nous pouvions échanger avec les responsables publics, les financeurs. Nous pouvions discuter, nous pouvions argumenter. À l'heure actuelle, nous ne pouvons plus. Nous sommes devant un silence assourdissant et nous sommes, j'irais jusqu'à dire que nous sommes méprisés, alors même que nous sommes des agents silencieux et ô combien opiniâtres pour que notre société tienne le coup.
Vous parlez de ce mur qui se dresse devant vous, c'est-à-dire on ne comprend plus le rôle des associations, on ne veut plus le comprendre au niveau politique ?
Bah, écoutez, visiblement, on est considéré comme un acteur secondaire, mais alors que nous sommes un acteur principal, comme je l'ai dit dans mon discours, pour que la société tienne debout. Alors, effectivement, il va falloir que nos politiques s'aperçoivent de notre importance. Et effectivement, sinon, c'est un mur qui est devant nous, mais pas que devant nous, devant la société tout entière.
Le nerf de la guerre, donc, c'est le financement. Financement qui est conditionné de plus en plus à des dossiers, des appels à projets qui prennent un temps considérable pour les acteurs du monde associatif à rédiger. C'est ça, le nerf de la guerre ?
Le nerf de la guerre, c'est un financement durable et cohérent, pas des stop and go en permanence. Et effectivement, arrêtons les appels à projets, partons du terrain pour savoir quels sont les besoins et laissons les acteurs associatifs fabriquer du projet. À ce moment-là, effectivement, nous pourrons dire que les autorités politiques nous entendent.
Univox.
Je m'appelle Franck Carré, je suis médecin, je suis président d'une association de solidarité internationale qui s'appelle l'Association Médina, qui est basée à Bourges, qui est membre du réseau S'entraider. Je pense qu'il y a des représentants de S'entraider ici. C'est un réseau régional multi-acteurs S'entraider. Médina existe depuis 28 ans et on a pour spécialité de travailler dans les pays en guerre. Et on le fait en exprimant cette force humaine qui est la solidarité. C'est-à-dire qu'on est une association ouverte au soutien, à l'écoute, à la participation, à la sensibilité de tous. Et ça, je pense que c'est un magnifique acte de solidarité citoyenne.
Alors, votre présence ici, c'est que vous vous sentez concerné, j'imagine directement, parmi tout le secteur associatif qui est en difficulté et qui crie son mal-être et même sa colère vis-à-vis des pouvoirs publics.
Voilà, on se sent en danger. Alors, on a deux catégories de raisons. D'une part, on est frappé comme toutes les associations représentés ici, c'est-à-dire que, et en France, dans la France entière hein, d'ailleurs, puisqu'il y a des actions dans tout le pays, on est en grande difficulté de fonctionnement parce que l'accès aux subventions est de plus en plus difficile. Comme le disait la dame qui a parlé avant moi,
Dominique, oui.
On est extrêmement soumis à des appels à projets. Alors, je voudrais quand même faire une exception parce que ici, la région Centre-Val de Loire nous a toujours soutenus. Hein. Et il y a un attachement à la solidarité internationale en Centre-Val de Loire. Mais c'est hélas loin d'être le cas partout. Et donc, les difficultés de fonctionnement sont de plus en plus importantes. Il y a une crise de la survie associative en France et il y a une crise mondiale quand on travaille sur le terrain à l'international. Mais il faut le redire, les associations qui sont présentes en très très grand nombre, hein, plusieurs dizaines voire plusieurs centaines par département, elles structurent la vie civique, la vie citoyenne, c'est-à-dire tout ce qui se fait en dehors du travail. Il se passe plein de choses en dehors du travail et ce sont des choses qui font vivre le pays et la solidarité internationale y participe parce que penser aux autres, exprimer sa solidarité sur le terrain avec celles, ceux qui souffrent de guerre, de choses horribles, c'est fédérateur et c'est possible. Et des associations comme la mienne, hein, et S'entraider en représente beaucoup, sont là pour le prouver.
Votre association, elle compte, j'imagine, quelques salariés, Médina ?
On a eu, pendant une période de 9 ans, une salariée, et c'est devenu impossible. Justement face à ce type de contingence que subissent les associations.
Donc ça a eu, j'imagine, un fort impact sur les activités que vous pouvez mener, parce qu'un salarié ou une salariée, c'est minimum 35 heures par semaine, c'est un investissement beaucoup plus important qu'un bénévole ou une bénévole peut donner forcément qui a un travail à côté, donc ça a dû vous impacter, j'imagine.
C'est ça exactement, c'est-à-dire que ça a été d'une part beaucoup plus de travail pour les bénévoles et moi, je travaille encore à temps plein et je consacre tout mon temps libre à faire fonctionner l'association et c'est encore pas suffisant malgré le travail des autres administrateurs. Et il y a des domaines de financement qu'on ne peut pas explorer faute d'effectifs salariés.
Alors, quel message vous souhaiteriez porter au pouvoir public là si il vous entendait actuellement ?
Je crois que les pouvoirs publics sont gagnants en soutenant le réseau associatif. Pourquoi ? Parce qu'en soutenant le réseau associatif, il crée ce lien social qui est si fort, qui s'exprime de toutes les façons, le soutien à l'enfance, le soutien aux personnes âgées, l'art, la culture, la beauté des paysages, les loisirs, le cinéma, et ce point qui m'est cher, l'expression de la solidarité internationale.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Alexis Orani, président d'Onifilm, une association donc de cinéma. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette association ?
Oui, bien sûr. Onifilm, c'est un espace d'échange et de créativité. On fait venir énormément d'artistes, de jeunes artistes, des plus anciens, des doyens. L'idée, c'est de créer de belles synergies autour de la production audiovisuelle, cinématographique, mais aussi maintenant culturelle. C'est-à-dire que maintenant, on essaye de mettre en avant nos artistes à travers différents événements, pièces de théâtre, notamment avec le Musée des Beaux-Arts, mais aussi des projections au cinéma, Cinéma Les Carmes et au Pâté d'Orléans.
Donc l'importance pour toi d'être présent sur cette journée Ça ne tient plus des associations, est-ce que tu peux nous en parler de cette importance pour toi d'être là ?
Parce que pour moi c'est important de créer des synergies entre nos associations, de montrer qu'on est tous ensemble, qu'on est présents, que nous ne sommes pas éclatés, on n'est pas chacun à faire de nos activités, chacun de notre côté, on est tous ensemble pour la même cause. Ce qu'on dit généralement c'est que quand on fait une association, on est d'ores et déjà politisé entre guillemets, on est là pour la vie en cité, pour améliorer les choses parce qu'il y a des manquements, parce que nous par exemple dans notre association on rassemble des centaines de personnes chaque année et qui ont besoin, qui ont envie de ce type de projet là et pour chaque association c'est la même chose. Donc soutenir ce mouvement là au vu des difficultés que l'on vit tous, c'est montrer qu'on est un groupe, qu'on essaie d'ouvrir des portes et surtout que par notre nombre on est là pour les maintenir ouvertes, donc c'est très important.
Est-ce que actuellement Onifilm, ton association, traverse des difficultés comme de nombreuses autres associations qu'on a pu voir ici ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de la situation actuelle et peut-être un peu des perspectives pour le moyen terme ?
Alors oui, en effet, dès cette année, on a senti les coupes dans les subventions. Il y a des subventions qu'on avait les années précédentes qu'on n'a plus cette année. On a des changements de partenaires financiers de part et d'autre. Et du coup, en fait, on sent que là, on est en véritable difficulté. Mais notre philosophie, c'est justement, tout comme l'événement d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'on est présent. Donc en fait, on multiplie même presque nos interventions. Pour montrer qu'on est présent, pour montrer que ce qu'on fait a de l'intérêt, a de la valeur, ça apporte des choses aux gens qui viennent. Nous, on a des personnes pour qui l'association a changé leur vie aussi. Donc c'est important de montrer qu'on est présent dans tous les événements, partout, pour au contraire, on n'essaye pas de se dire on a moins d'argent, du coup on va baisser nos activités. On est plutôt en mode on va trouver d'autres façons d'être présent. Et voilà.
Tu nous parlais de cette importance d'être visible, d'être toujours présent. Ça me fait penser aussi à quelque chose que nous, on vit également en éducation aux médias, mais ça peut être aussi dans plein d'autres secteurs du monde associatif, la concurrence. On en parlait en fait avec certains membres du mouvement associatif Centre-Val de Loire. Une des choses qui est revenue, c'est de dire que de plus en plus, on est aussi sur de la mise en concurrence du monde associatif, alors qu'on demande précisément, et que c'est même la base du monde associatif, de travailler ensemble et de faire tous front vers le même objectif. Tu le ressens aussi, tu la ressens cette mise en concurrence ?
Je la ressens énormément et j'essaye de ne pas trop y prêter attention parce que déjà quand on a lancé notre association, on avait déjà cet état d'esprit de vouloir rassembler, de créer des synergies entre associations du milieu culturel ou au-delà. Mais c'est vrai qu'en fait, de plus en plus, cette tendance est revenue à la charge. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on est tous complémentaires parce qu'on a des philosophies, des énergies différentes aussi. Et on est tous là et on ne peut pas s'occuper de toute la ville d'Orléans. On n'a pas cette prétention de dire une seule association suffit pour gérer toute la partie culturelle de la ville. Mais de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que plus c'est difficile, plus il y a cette concurrence et bizarrement j'ai même l'impression que c'est les points de vue extérieurs qui nous met en concurrence. C'est pas forcément nous entre associations, même si des fois ça peut arriver qu'il y ait cette sensation qu'on est en concurrence, mais je pense que c'est un peu le regard extérieur de se dire il y a tant d'associations qui sont dans ce domaine là et c'est des concurrents, alors il faut en choisir un, il faut en sélectionner un parmi eux tous, alors qu'en fait ils ont tous de la valeur, ils ont tous leur complémentarité. Donc voilà.
Tu les vis aussi ces histoires d'appels à projets qui se sont élargies davantage dans le monde associatif. Ou toi ça va, t'as pas eu besoin d'en rédiger ?
Eh bah, si, on a dû multiplier en fait nos demandes, nos appels à projets. Nous avec nos adhérents, on a toujours une liste, on a un réseau où on partage tous nos appels à projets. Généralement on en met plein, mais en fait c'est tellement chronophage, ça demande tellement de temps, c'est pas facile en fait de participer à ces appels à projets, surtout que parfois c'est très restrictif. Et selon les appels à projets, ça peut être aussi très concurrentiel également. Et nous, on n'a pas l'envie de trop se montrer compétitif. On veut se montrer que nous, on est présent, on est là par défaut et voilà.
Et d'ailleurs, sur ces appels à projets, il y en a certains qui sont rejetés aussi. C'est-à-dire ce qui signifierait des efforts pour rien.
Comme je te le disais tout à l'heure, cette année, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est que là, des fois, c'est énormément d'énergie, en plus de nos activités, parce qu'il faut maintenir nos activités, nos événements, etc. En plus, il faut répondre à ces appels à projets. Et oui, on a eu 3-4 refus cette année. Et c'est vrai que c'est embêtant, parce que ça demande énormément d'énergie pour pas grand-chose au final. Et ça démoralise un petit peu, mais on se dit toujours, bon, la prochaine sera bonne. On essaye de garder cette idée de résilience et de rester positif, parce que là, comme on a pu le voir aujourd'hui même lors de l'événement, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont démoralisées, qui ont très peur pour la suite. Et moi, j'essaye vraiment de garder cet esprit positif, de dire non, parce qu'en fait, tant qu'on se dit qu'on peut y arriver, on fera toujours un pas de plus vers ça. Que si on est démoralisé, on va stagner et c'est là que c'est compliqué.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Moi, je suis en tout cas très contente de cette mobilisation.
Gaëlle Payet, directrice du mouvement associatif Centre-Val de Loire.
Je vous avoue qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre parce que c'est la première fois, c'est inédit pour nous, même dans toute la France. Il y avait quand même 300 manifestations d'organisées sur l'ensemble de la France. Donc on ne savait pas à quoi s'attendre et franchement on est super content déjà qu'il y ait eu une mobilisation importante de toutes les prises de parole qui ont pu être faites à cette occasion. Et puis je crois que le petit flash mob, là, le petit die-in qu'on a fait tous ensemble, ça permet aussi de se rendre compte que derrière les associations, il y a aussi beaucoup de bonne volonté, des bénévoles engagés, des salariés, mais aussi des personnes qui sont directement concernées par nos activités. Et c'était ce message-là qu'on avait envie de faire passer aussi auprès du grand public, qu'elles sont aussi concernées par potentiellement la fin du secteur associatif.
Ça a été dit tout à l'heure, le mouvement associatif n'a pas l'habitude de se mobiliser de cette manière-là. Il faut vraiment qu'il y ait péril en la demeure pour en arriver à une telle mobilisation au niveau national.
Oui, c'est ça. En fait, on a épuisé, j'ai envie de dire, tous les systèmes de dialogue habituels avec lesquels on a l'habitude de fonctionner. On fait du plaidoyer, on essaye de rencontrer les politiques. Alors évidemment, dans cette période, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément d'interlocuteurs qui restent. Mais on a fait tout ça, on a fait tout ce travail d'alerte, de sensibilisation. On a fait des enquêtes pour aussi essayer de donner des éléments objectifs. Et à chaque fois, on a l'impression, je vais le dire un peu vulgairement, mais que tout le monde s'en fout, quoi.
Pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout, selon vous ?
Peut-être parce qu'on est justement un peu gentil et que ça se voit pas, en fait. Des petites associations qui meurent un petit peu partout, on se dit c'est pas grave, mais en fait si c'est grave, il y a beaucoup de personnes qui sont animées, c'est des citoyens, des citoyennes en fait, qui proposent des projets sur l'ensemble des territoires et ça c'est précieux en fait pour la société, pour l'ensemble des habitants en fait de nos territoires. Donc peut-être ça se voit pas, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à être entendu, on n'arrive pas à faire masse, mais c'est aussi pour ça que le mouvement associatif existe. C'est aussi pour montrer toute la diversité associative et quels sont les impacts si on arrête de financer correctement les associations.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça a été dit à maintes et maintes fois que les appels à projets se multiplient, que c'est de plus en plus difficile de demander des subventions. Une mise en concurrence de plus en plus importante des associations quand on leur demande précisément de travailler ensemble. Vous, comment est-ce que vous voyez un petit peu cette évolution du financement des associations décennie après décennie ?
Évidemment, c'est pas ce qu'on défend nous au mouvement Asso. On essaye de faire en sorte de rappeler qu'il y a tout un arsenal législatif qui permet aux collectivités et aux services de l'État de passer par la subvention et d'éviter cette mise en concurrence permanente entre les acteurs associatifs qui n'ont pas forcément non plus envie, eux, d'être en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Pour nous, vraiment, la subvention, c'est aussi un moyen de reconnaître l'initiative en fait, des citoyens engagés dans le tissu associatif, ce qui n'est pas le cas avec un appel à projet. En fait, l'appel à projet, c'est la collectivité, les services de l'État qui définissent un besoin et qui disent qui est prêt à y répondre. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse financer des projets qui sont issus du terrain parce que nous, on les voit, les besoins des habitants et des habitantes. Donc c'est ça qu'on essaye en tout cas de rappeler régulièrement, que c'est très délétère et qu'à un moment donné, ça favorise aussi des grosses associations. Et que moi, j'ai rien contre les grosses associations, évidemment, mais on a aussi besoin de ces petites associations qui sont sur le terrain.
Les risques pour la société, la cohésion sociale, quels sont-ils si on a un secteur associatif qui se retrouve très grandement affaibli et diminué ?
L'association intervient partout, surtout du premier au dernier kilomètre avec tous les types de publics, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, la personne malade. Enfin, on voit bien que c'est ça aussi qui tient, qui permet, alors ça fait écho à notre slogan « ça ne tient plus », mais c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, si on n'accompagne pas le secteur associatif, alors évidemment, c'est aussi des personnes qui sont précarisées, qui sont en difficulté, qui n'auront plus accès à certains services, mais c'est pas forcément que des personnes en difficulté, c'est aussi des personnes qui vont à des festivals associatifs, des festivals de proximité, qui sont en milieu rural, tout ça, ça risque de disparaître. Et forcément, bah en tout cas, c'est là-dessus qu'on essaye d'interpeller aussi le grand public pour qu'il entende aussi ce que ça peut amener finalement s'il y a des associations qui disparaissent.
On sait que les associations elles prennent souvent le relais aussi des pouvoirs publics lorsqu'elles ne peuvent pas être présentes. Et de ce qu'on entend, hein, c'est qu'il y a aussi cette logique, ce petit son de cloche qu'on entend régulièrement de diminuer le nombre de fonctionnaires. Donc, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, le service public ne pourrait même pas prendre le relais des associations qui disparaîtraient, si j'ai bien compris.
Ça, c'est sûr, parce que déjà, il y a beaucoup de délégations de services publics qui sont faites au tissu associatif, donc on est déjà sur de moins en moins de services publics, et beaucoup de gens sont bien en peine déjà, notamment en milieu rural. On n'a plus d'humains en fait, on est face à des plateformes numériques, beaucoup de choses comme ça qui se développent, et tout le monde n'a pas cette capacité d'accéder à tout ça. Donc d'une manière générale, oui, clairement, on peut vraiment s'inquiéter en se disant que de toute façon, effectivement, ce ne sera pas le service public qui remplacera, ça c'est sûr.
Alors, vous avez évoqué le milieu rural, c'était justement la question que je voulais aussi vous poser, parce que je l'ai vu aussi de mes propres yeux, ce vieillissement vraiment du tissu associatif. Il y a péril en la demeure encore plus dans le monde rural français ?
Peut-être pas encore plus, parce que je pense que là, pour le coup, c'est vraiment un diagnostic partagé de l'ensemble du tissu associatif. Trouver des bénévoles qui s'engagent, on en trouve, mais ceux qui prennent des responsabilités dans les associations, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et on voit bien, c'est comme tout, hein, les choses évoluent, il y a des gens qui s'engagent de manière plus ponctuelle qu'avant, mais il y a encore de l'engagement. Mais par contre, prendre des responsabilités, bah, ça rejoint ce qu'on se disait juste avant, sur la question aussi de la simplification des démarches. Enfin voilà, comment faire en sorte aussi de donner envie aux acteurs. Et je fais juste un petit parallèle, hein. Là on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on a aussi une inquiétude sur les libertés associatives. Beaucoup d'associations aujourd'hui se retrouvent face à des pouvoirs publics, pas qui mettent de la pression, mais quasi, en tout cas certaines s'auto-censurent, n'osent plus dire les choses de peur, de crainte de ne plus pouvoir accéder à des financements. Et ça,
on pense au contrat d'engagement républicain, par exemple.
Exactement. Le contrat d'engagement républicain, c'est notamment l'outil contre lequel on se bat, même si, évidemment, on souhaite respecter les principes de la République. Ça paraît évident. Mais il y a déjà tout un arsenal législatif qui existait. Il n'y avait pas besoin de rajouter ce contrat d'engagement républicain. Et surtout, ce qui nous inquiète avec ce contrat d'engagement républicain, c'est comme il est soumis à interprétation, c'est aussi ce qui met de la pression, en fait, et encore une fois, beaucoup d'autocensure de la part du tissu associatif pour ne plus participer. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai des associations qui m'ont dit « mais nous, on ne participera pas, on a peur des représailles ». Donc voilà, ça donne un peu le ton, quoi.
Les associations d'aide aux migrants, notamment, on sait qu'il y a davantage de périls encore plus pour elles.
C'est vrai que la situation politique en ce moment ne leur donne pas beaucoup de perspectives et c'est compliqué effectivement pour ce type d'association, mais c'est pas les seules, celles qui sont dans les quartiers ou même des associations sportives, hein, d'ailleurs, peuvent aujourd'hui être amenées à se dire « je vais pas faire trop de vagues parce que j'ai un peu peur de plus avoir mes financements ». Et nous, ce qu'on rappelle régulièrement, ça a été dit aussi par notre présidente nationale, c'est de rappeler qu'on n'est pas là pour faire plaisir au pouvoir public. Ça n'a jamais été l'objet du tissu associatif. On n'est pas là pour répondre à des injonctions permanentes. Et ça a aussi permis des grandes avancées, hein, que le monde associatif se mobilise. On donne souvent l'exemple de AIDS quand il y a eu le préservatif géant qui a été mis à Paris. Enfin voilà, ça a permis d'alerter aussi sur un certain nombre de grands sujets. Et c'est le tissu associatif qui a permis de faire ça. Donc voilà, on rappelle aussi l'importance d'être, c'est peut-être un gros mot, mais c'est important de dire un contre-pouvoir aussi à un moment, de pouvoir donner cette possibilité à des citoyens d'alerter sur des sujets.
Est-ce qu'on peut résumer les revendications principales, ou les rappeler en tout cas, ces revendications que vous portez au cours de cette journée de mobilisation ?
La revendication principale, c'est surtout pas un euro de moins pour le monde associatif. Voir si on pouvait effectivement soutenir un peu mieux les projets, ça serait encore mieux. Mais déjà, ne pas diminuer les financements dédiés aux associations. Et puis, toujours essayer d'avoir ce dialogue, en fait, entre les acteurs publics et le monde associatif. C'est hyper important dans cette période de ne pas se sentir non plus complètement isolé. Voilà, d'une manière générale aussi, la question des libertés associatives, je l'ai redit tout à l'heure, voilà, c'est des choses qu'on revendique de manière régulière, mais là, pour la situation spécifiquement des financements associatifs, c'est ne pas réduire les financements aux associations. C'est surtout ça le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui.
Et cet épisode d'Univox vous a été proposé par Radio Campus Orléans cette semaine. C'était un reportage de Thomas Deray.